Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. Les albinos souffrent d'une maladie génétique caractérisée par une absence de pigmentation de la peau, des poils, des cheveux et des yeux. Cela entraîne d'importants troubles visuels et cutanés. L'exposition au soleil est d'ailleurs fortement déconseillée et les cancers de la peau sont fréquents. L'albinisme affecte toutes les races et tous les continents avec des variations de fréquence importantes dans le monde. Il est assez fréquent dans la population noire d'origine d'Afrique subsaharienne. Ils sont d'ailleurs souvent victimes de discrimination dans de nombreuses régions d'Afrique. Alors, quels sont les problèmes de santé auxquels les albinos sont confrontés? Comment diagnostiquer la maladie? Comment prendre en charge ces patients? C'est ce qu'on va voir avec mes invités. Ils sont deux autour de cette table, un dermatologue et un ophtalmologue, le professeur Smaïl Hajrabia, dermatologue et généticien dans le service de dermatologie de l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris, et le docteur Christophe Orso, responsable de l'unité fonctionnelle d'ophtalmologie à l'hôpital européen Georges Pompidou. Et si vous avez envie de les appeler, n'hésitez pas à le faire au 33 84 22 75 75. Et on aura également au téléphone dans cette émission le docteur Nina Corsaga, qui est dermatologue vénérologue au CHU Yelgado Ouédraogo à Ouagadougou au Burkina Faso. Professeur Smaïl Hajrabia et docteur Christophe Orso, bonjour. Merci d'être là tous les deux pour nous parler de l'albinisme. C'est important effectivement dans une émission comme celle-là d'avoir à la fois, je dirais, un dermatologue et un ophtalmologue. Comment est-ce qu'on peut définir l'albinisme, docteur Christophe Orso?
L'albinisme, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une maladie de la pigmentation de beaucoup de tissus, de la peau, c'est ce qui est le plus visible, et des cheveux, des poils. Donc ce sont des personnes qui ont une peau qui est très peu pigmentée, des cheveux qui sont très peu pigmentés, dans la forme la plus caractéristique, la forme oculocutanée. Il y a une atteinte également de la pigmentation oculaire, c'est ce qui est responsable des troubles visuels en partie, avec une absence de pigmentation de l'iris et d'une partie de l'œil qu'on appelle l'épithélium pigmenté, ce qui fait que l'œil n'est plus transformé en chambre noire, les informations lumineuses arrivent de partout dans l'œil, ce qui gêne la vue. Il y a une autre atteinte qui est moins connue, c'est que les fibres optiques dans la vie embryonnaire se dirige mal et qu'il peut y avoir des troubles de répartition des fibres visuelles qui normalement croisent la ligne médiane à moitié. Là, elles se dirigent du mauvais côté, ce qui fait que les deux yeux ne peuvent plus travailler en même temps. Il y a donc toute une série de troubles sur lesquels nous reviendrons, mais l'albinisme, c'est ça, c'est une maladie à la fois de la pigmentation et pour l'œil de la mise en place du système visuel.
C'est ça. En général, ça touche à la fois la peau et les yeux, mais ça arrive que ça ne touche que les yeux. J'imagine que c'est un peu plus compliqué à diagnostiquer dans ces cas-là.
Alors, il y a effectivement des formes qui sont oculaires pures, où il y a une absence de pigmentation de l'épithélium pigmenté d'une partie de la rétine, ce qui fait que l'œil n'est plus transformé en chambre noire, le point de fixation, la macula, la zone la plus sensible se développe mal, avec des conséquences visuelles importantes, mais on n'a pas les atteintes cutanées pour nous aider, et ce sont des gens qui peuvent avoir une pigmentation qui est tout à fait normale, y compris au niveau de l'iris. On peut avoir des formes oculaires pures avec un iris qui est foncé, mais quand on regarde bien, des fois il y a des petits trous, des zones d'absence de pigmentation qui nous aident.
Et on va voir tout au long de cette émission la prise en charge aussi bien au niveau oculaire que cutané. La question qui se pose évidemment, c'est la transmission de la maladie. On a eu beaucoup d'auditeurs qui ont des questions à nous poser là-dessus. On a par exemple Youssouf qui nous appelle de Bamako au Mali. Youssouf, bonjour.
Oui, bonjour madame.
On vous écoute, parlez bien près du téléphone et bien fort pour qu'on vous entende.
Oui, bonjour madame et bonjour docteur.
Allez-y, on vous écoute Youssouf.
Voilà, ma question était de savoir si la maladie albinisme est une maladie héréditaire là.
Alors, effectivement, on va répondre à cette question. Quand je dis on, d'ailleurs, c'est plutôt les invités autour de cette table qui vont y répondre. On a aussi Ali qui nous appelle de Fès au Maroc. Ali, bonjour.
Et bonjour, madame.
On vous écoute, Ali.
Oui, ma question est la suivante. J'ai connu une famille en Guinée-Conakry qui ont eu au moins 7 enfants et 8, 9 enfants. tous albinos, alors que le père n'est pas albinos ni la mère. Je veux connaître l'origine de ça et s'il y a un remède pour ça.
Et surtout comprendre justement cette question de la transmission. Alors, professeur Smaïl Hajrabia, vous êtes, je l'ai dit, dermatologue, vous êtes aussi généticien. Comment justement se transmet cette maladie ?
Alors, l'anomalie du pigment est une anomalie constitutionnelle, donc elle est absente au moment de la naissance, même si la pigmentation apparaît ensuite, et c'est donc la fabrication, la migration de ce pigment qui pose problème, et cette fabrication est assurée par deux gènes, on va dire deux usines, une qui vient du père et une qui vient de la mère, et c'est le fait que ces deux usines qui ne fonctionnent pas, qui entraînent l'apparition de l'albinisme.
Donc ça veut dire qu'il faut que le père et la mère soient porteurs du gène.
Et nous sommes tous porteurs de ces gènes. Mmh. La différence entre un père et une mère qui vont avoir un enfant albinos, c'est que l'un des deux gènes ne fonctionne pas. L'une des deux usines est en grève, si vous voulez, et l'enfant va hériter, comme on hérite tous, pour être fabriqué de la moitié de l'information qui vient de la mère et de l'autre moitié qui vient du père. Et l'information qui est héritée du père et de la mère est une usine qui ne fonctionne pas du côté maternel et une usine qui ne fonctionne pas du côté paternel. C'est pour ça qu'il n'y a pas du tout de fabrication, à ce moment-là, de pigments ou d'éléments qui permettent à cette pigmentation, à cette mélanine de fonctionner normalement.
Donc on peut dire, pour répondre à la question de Youssouf, c'est une maladie héréditaire.
C'est une maladie héréditaire, et on comprend aussi que lorsqu'on a un gène qui fonctionne, une usine qui fonctionne et une usine qui fonctionne pas, on va très bien et on ira très bien tout le temps.
C'est-à-dire qu'on n'est pas albinos.
Qu'on n'est pas albinos. Pourquoi ? Parce que une usine qui fonctionne, un gène qui fonctionne suffit pour aller bien tout au long de sa vie. Et on comprend aussi pourquoi on peut être le seul enfant concerné au sein d'une famille, parce que les autres enfants peuvent avoir hérité d'au moins une usine qui fonctionne, et à partir de là, ils ne seront pas albinos. Donc on peut avoir un, deux, plusieurs enfants concernés, comme on peut en avoir qu'un seul, et avoir des parents qui vont parfaitement bien.
C'est pour répondre à la question d'Ali. Voilà. Effectivement, il peut y avoir deux parents pas du tout albinos qui donnent naissance à des enfants albinos.
Exactement. Et ceci représente l'extrême majorité des modes de transmission de l'albinisme, mais on peut voir que certains autres modes de transmission beaucoup, beaucoup moins fréquents sont également décrits, en particulier dans l'albinisme oculaire pur.
Merci beaucoup, Youssouf et Ali, pour vos questions qui étaient vraiment importantes, et ces questions de génétique. Les problèmes de santé auxquels sont confrontés les albinos, c'est quoi ? J'ai commencé à les évoquer, donc on a vu les problèmes oculaires, et autrement, c'est des problèmes de la peau, cancer de la peau principalement ?
Ce pigment qui est présent dans l'œil et qui est présent dans la peau est nécessaire dans la peau pour protéger le noyau de la principale cellule de l'épiderme, de la partie visible de la peau, le kératinocyte, protéger son noyau contre les agressions, contre différentes agressions qui vont altérer justement cette information génétique qui est contenue dans ce noyau. Et donc, la mélanine fait une barrière autour du noyau. Et donc, l'un des problèmes, c'est que comme cette barrière ne fonctionne plus, cette protection ne fonctionne plus, il faut la remplacer. C'est la première chose, et c'est la photoprotection, qu'elle soit vestimentaire, qu'elle soit avec l'application de crème, ou qu'elle soit horaire, c'est-à-dire qu'on va sortir à certaines heures de la journée. Et si on n'est pas protégé, on va altérer ce noyau, et ce noyau va entraîner les anomalies vont entraîner l'apparition de cancers à long terme. Donc c'est une photoprotection qui doit commencer relativement tôt pour éviter beaucoup plus tard, à l'âge adulte, l'apparition plus précoce de cancers qui sont décrits dans la population générale.
Et sur la peau, justement, c'est principalement le problème des cancers de la peau, ou il y a d'autres maladies qui...
C'est principalement les cancers de la peau. Avec comme corollaire importante le fait que nous fabriquons de la vitamine D grâce à notre peau et grâce au soleil, que 60% de la fabrication de notre vitamine D est permise grâce à la peau. Hein, on a 40% qui viennent par l'alimentation, 60% qui viennent grâce à la fabrication de l'interaction du soleil et de la peau, et que il est important de faire attention à la carence en vitamine D chez les personnes que nous photoprotégeons.
Puisque justement, vous leur dites de ne pas se mettre au soleil.
Exactement.
Et de se protéger, et du coup, on comprend bien qu'il peut y avoir un problème de vitamine
Exactement.
D. On va revenir tout au long de cette émission sur les questions de moyens de prévention et de prise en charge. Aujourd'hui, nous parlons de l'albinisme et Pauline Mocor est allée rencontrer Sita, qui a 45 ans, les cheveux blancs et la peau claire. Elle est atteinte d'albinisme oculo-cutané. Elle a un dixième à chaque œil. Elle travaille comme animatrice prévention dans une grande entreprise en France, mène des campagnes de sensibilisation auprès de parents d'enfants albinos pour les rassurer, faire en sorte qu'ils acceptent l'enfant et l'accompagnent dans son épanouissement. Elle nous raconte son propre vécu.
J'avais plein de problèmes cutanés. Pratiquement tous les 3 mois, on m'enlevait des bouts de peau qui étaient abîmés et on me faisait des soins par lumière et crème, histoire de soigner les plaies que j'avais un peu partout sur la peau.
Qu'est-ce que c'était ces plaies? Des kératoses?
Oui, des kératoses et puis des verrues. Il y avait pas mal d'exérèse de cellules qui n'étaient pas bien.
Qui pouvaient devenir cancérigènes?
Oui.
Donc on vous a tout enlevé, ces cellules dangereuses pour
C'est
votre santé.
C'est pas fini, je continue à voir un médecin qui me fait des fois pas un brûle à l'azote pour essayer d'enlever les parties qui ne conviennent pas.
C'est difficile pour vous de savoir qu'il faut tout le temps vous surveiller?
Je pense plutôt que c'est une chance. Parce que si j'étais restée en Afrique, je me dis qu'aujourd'hui, je ne serais pas comme ça. Aujourd'hui, je suis bien, j'ai pratiquement la peau saine. Alors que pour mes compatriotes qui sont restés en Afrique, ce n'est pas du tout la même chose. La plupart du temps, ils ne sont pas agréables à regarder parce qu'ils sont couverts de plaies.
Est-ce que votre albinisme a eu des conséquences sur votre vie professionnelle?
En Afrique, je n'arrivais pas à m'intégrer. Pendant que tous mes frères et sœurs étaient en poste, moi j'étais à la maison. Mais par contre, quand je suis venue ici, en France, ça a été tout seul.
C'est à cause des conséquences sociales et professionnelles de votre albinisme que vous avez décidé de venir vivre en France, de quitter le Burkina Faso?
Un peu oui, parce que je ne me voyais pas être à la charge de mes parents et avoir fait de grandes études et ne pas pouvoir mettre ça en œuvre.
Est-ce que vous avez pu souffrir du regard que la société burkinabé porte sur les personnes atteintes d'albinisme?
Dans ma famille, je ne ressentais pas cette différence-là parce que mon père avait fait en sorte que mes frères et sœurs, mes oncles ne me voyaient pas autrement. Mais dès que je sortais dans la rue, c'est les injures qui faisaient que voilà, je me posais des questions. Et à l'adolescence, quand tout le monde commençait à avoir de petits copains, des trucs comme ça, c'est là que j'ai compris aussi. Les gens ne m'approchaient pas comme ils auraient fait avec mes autres frères et sœurs ou mes amis.
Est-ce que ça vous a fait perdre confiance en vous?
Ah oui, parce que la perception de l'albinisme faisait que je me demandais des fois si j'étais une personne, quoi. Parce que l'albinisme chez nous disait, voilà, l'albinisme n'est pas un être humain, c'est un être surnaturel, c'est pas, voilà. Et l'albinos porte chance, l'albinos peut vous porter malchance. Si les hommes vous suivent, ouais, j'ai envie de coucher avec toi pour avoir la prospérité ou des conneries comme ça. Qu'est-ce que vous dites de ça? Donc, non. Non, je préfère rester dans mon coin.
Comment vous avez grandi avec ce regard social pesant?
Je me suis fixé un objectif, c'était les études et tout, c'est tout. Moi, j'ai eu la chance d'être soutenue par ma famille et j'ai tenu parce que je voyais les autres qui arrivaient au premier cycle du lycée, ils abandonnaient parce que tout simplement ils ne voyaient pas au tableau, il y avait personne pour les aider. Moi, j'ai eu la chance que une de mes sœurs très proche de moi était tout le temps dans la même classe que moi. Et je profitais des cours, ce qui m'a permis de faire le cursus sans problème jusqu'au bac. Et mes parents m'ont beaucoup, beaucoup soutenue, donc c'est de cette manière que je m'en suis sortie.
Priorité santé sur RFI.
Et aujourd'hui, nous parlons de l'albinisme. Professeur Smaïl Hadjrabia, j'imagine que vous avez envie de réagir à ce que vient de raconter Sita. Moi, j'aurais une question à vous poser. Elle se protège. Elle porte un chapeau, des vêtements longs, écran solaire. L'été, elle fait attention à ses heures de sortie, tôt le matin, après 16 heures. Enfin, tout ce que vous nous avez expliqué en début d'émission. Malgré ça, elle a des problèmes de peau. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à éviter ces problèmes de cancer de la peau.
On arrive, la photoprotection maintenant permet vraiment de retarder l'apparition des premières lésions. La situation est qu'il faut commencer relativement tôt dans l'enfance, dès qu'on fait le diagnostic finalement, parce que c'est l'accumulation de ce contact avec le soleil, avec les choses qui sont dans le soleil et qui altèrent les cellules, c'est cette accumulation-là qui est responsable de l'apparition plus tard
des lésions. Il faut faire très attention dès l'enfance.
Si on fait attention dès l'apparition des premières lésions, il est déjà un peu trop tard. On est dans la prise en charge de ces lésions. On ne va pas les empêcher d'apparaître.
Docteur Christophe Orso, pour ce qui est de Sita, elle a un dixième à chaque œil, donc de grosses difficultés de vision. Qu'est-ce qu'on arrive à faire en termes ophtalmologiques ?
Alors, on ne peut pas améliorer la vision de ces patients, encore que si on prend en charge assez tôt, avec des corrections optiques adaptées, des protections, des lunettes teintées, on peut prendre en charge, traiter une partie de ce qu'on appelle l'amblyopie. Ce sont des gens qui vont mal développer leur vision parce qu'il y a des problèmes au niveau de l'œil, mais quand il y a une acuité visuelle qui est très très basse, on ne va pas améliorer l'acuité, on ne va pas revenir à une acuité normale. Ils ont souvent ce qu'on appelle un nystagmus, les yeux qui bougent un petit peu en permanence, parce que ils n'arrivent plus à fixer, le contrôle de la fixation se fait mal, et si vous avez l'œil qui bouge en permanence, l'acuité n'est pas bonne. On peut surtout les aider avec des aides visuelles, c'est-à-dire compenser avec des sujets agrandis en classe, avec des téléagrandisseurs, avec des loupes. On peut améliorer la capacité visuelle parce que les gens vont arriver à suivre les cours qui sont donnés avec des livres agrandis, des sujets qui seront plus faciles à lire. Ils vont pouvoir utiliser des télescopes qui vont faire que ils verront plus gros ce qui est présenté. Donc, ça facilite la vie. Mais
on
n'a rien de miraculeux. On ne peut pas rendre la vision.
On a Morlaï, qui nous appelle de Conakry en Guinée. Morlaï, bonjour.
Oui, bonjour madame.
On vous écoute. Alors, la ligne n'est pas très très bonne, donc vous parlez bien fort, bien près du téléphone.
Oui, oui.
Allez-y, on vous écoute.
Oui. Vous savez, comme dit le docteur, les habitants en Afrique sont victimes de ce problème de rayon solaire.
Morlaï, la ligne est vraiment très mauvaise, donc parlez bien près du téléphone et parlez fort. Je crois que vous êtes albinos vous-même, c'est ça?
Je parle fort comme ça.
Bon, attendez, Morlaï, on va vous rappeler. De toutes les manières, les informations approchent. Donc, on se retrouve dans 3 minutes, juste après les infos, toujours pour parler de l'albinisme. Et vous nous expliquerez les questions que vous avez envie de poser à nos deux invités, Morlaï. À tout de suite.
Priorité santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons de l'albinisme avec le professeur Smaïl Hajrabia, qui est dermatologue, généticien dans le service de dermatologie de l'hôpital Necker Enfants Malades, et le docteur Christophe Orso, responsable de l'unité fonctionnelle d'ophtalmologie à l'hôpital européen Georges Pompidou, à Paris également. Et si vous avez envie de leur poser des questions, n'hésitez pas à nous appeler au 33 1 84 22 75 75. Avant les informations, on était en ligne avec Morlaï de Conakry en Guinée. Morlaï, bonjour, rebonjour. Vous nous avez dit que vous étiez albinos et vous aviez une question à poser. On vous écoute.
Oui, bonjour madame. Comme je vous le disais, je suis moi-même albinos. Tel que le médecin explique, c'est effectivement comme ça. Ici en Afrique, sous le climat tropical, nous sommes victimes, n'est-ce pas, de ces rayons solaires avec des températures élevées. Depuis moi, mon retour de l'extérieur, j'ai créé une ONG qui ne peut que donner conseil aux parents pour bien habiller les enfants. Mais malgré cela, avec les difficultés économiques que nous vivons, il y a toujours des problèmes de peau. Et le drame encore est que quand vous partez dans les hôpitaux, il y a certains médecins qui refusent de vous recevoir pour la consultation. Ça aggrave la situation. Donc souvent, les parents posent la question, est-ce qu'il y a des crèmes que nous pouvons porter pour éviter, n'est-ce pas, ces brûlures solaires? N'ayant pas de réponse, j'ai tout dit aux enfants, essayez de vous habiller correctement. Portez les chapeaux, les chemises moins longues, les pantalons et autres moyens de protection de la peau. Donc la question principale est, est-ce qu'il y a des crèmes nous permettant de nous protéger contre les brûlures solaires? C'est cette question que je pose. Comme vous le disiez déjà, au niveau de la vision aussi, vous savez, ça c'est déjà connu. J'ai déjà suivi l'intervention du médecin. Et nous, avec les rayons solaires, même les verres correcteurs, sous le climat tropical, ça se détruit au fil du temps. Et le remplacement, c'est un problème. Raison pour laquelle on ne tente même pas de les avoir ici. On pose seulement des verres solaires pour protéger, n'est-ce pas, l'œil aussi contre les mêmes rayons solaires. Donc moi, personnellement, avec mon ONG, je ne peux que donner consigne aux enfants de s'habiller bien. Mais avec les problèmes des parents aussi, les problèmes restent. C'est toujours là.
Merci vraiment pour toutes ces questions. Voilà, c'est très intéressant, à la fois des questions sur les problèmes de peau et sur les problèmes oculaires. Docteur Christophe Orso, effectivement, dans les pays chauds, il y a un problème supplémentaire dans les pays tropicaux avec la luminosité.
Alors, comme il n'y a plus cette protection de l'œil qui fait que vous avez une chambre noire. Si vous avez beaucoup de luminosité, elle rentre partout dans l'œil. Et les rayons vont toucher la rétine en n'importe quel point. L'iris, chez les albinos, est transilluminable. Vous pouvez regarder à travers en consultation. Les images ne passent plus par la pupille. Elles passent par la totalité du globe oculaire. Ce qui fait que la rétine reçoit trop de lumière, des images parasites. Donc, dès qu'il y a beaucoup de lumière, l'acuité est moins bonne, les gens sont gênés, ils ont une photophobie, la lumière les dérange. Et la lumière va les gêner dans leur vision qui est déjà très altérée parce qu'ils n'arrivent plus à fixer.
Ça veut dire qu'il faut porter des lunettes de soleil en permanence?
Il faut porter des lunettes de soleil en permanence. C'est la meilleure solution quasiment dans ces pays où il y a beaucoup de luminosité.
Et c'est lunettes de soleil avec correction, c'est ça en même
Alors,
temps?
Lunettes de soleil, bien sûr, correctrice, puisqu'il faut mettre l'œil dans les meilleures capacités pour que l'image se forme sur la rétine.
Professeur Smaïl Hajrabia, Morlaï posait aussi une autre question sur la protection de la peau. Est-ce qu'il y a des crèmes qui arrivent, ce qu'on appelait jusqu'à maintenant des écrans totales, je ne sais pas si d'ailleurs le terme est valable, qui vraiment sont efficaces pour protéger intégralement?
Alors, les écrans solaires sont efficaces pour protéger. Il y a une contrainte importante, c'est l'application répétée. Et l'application répétée est savoir appliquer la crème. Lorsque l'on demande à une personne de nous montrer comment elle applique la crème, souvent on oublie certaines zones du visage. On oublie par exemple d'appliquer la crème sur les oreilles, à ma consultation, on oublie d'appliquer la crème sur l'arête du nez, juste au-dessus de la lèvre supérieure, et c'est quand on regarde où surviennent les premières lésions, c'est souvent sur ces zones-là. Donc il n'y a pas simplement le fait d'avoir un écran solaire efficace, il y a aussi enseigner, apprendre, montrer comment on va appliquer et avec quelle fréquence on va l'appliquer.
Et la fréquence, justement ?
La fréquence, c'est quand on sort, et c'est 3 à 4 fois par jour quand on sort. Alors, il existe en effet des crèmes qui se sont améliorées et qui permettent d'être appliquées moins fréquemment, mais la plupart d'entre elles doivent être appliquées plusieurs fois par jour sur les zones découvertes. Il n'est pas nécessaire d'appliquer la crème sous le vêtement. Le vêtement suffit. L'autre technique de protection, c'est ce qu'on appelle la protection oraire, c'est-à-dire d'essayer de ne pas sortir au moment où l'ensoleillement est maximal pour justement éviter le contact prolongé avec les UV délétères.
Et dans les pays tropicaux, ça veut dire ne pas sortir entre quelle heure et quelle heure ? Quel est le conseil que vous donnez ? Quoi, du 10h-16h, c'est ça ?
Globalement, c'est du 10h-16h. C'est compliqué sur le plan de la vie sociale, parce que c'est 10h-16h, c'est les heures d'activité professionnelle, sont les heures d'activité scolaire. Donc, c'est bien évidemment quelque chose qui nécessite d'autres adaptations. Dans la classe, par exemple, on peut demander à ce que l'enfant ne soit pas proche de la fenêtre, mais plutôt sur l'autre côté, sur
près
une autre rangée, près du mur, qu'il reste dans la classe et qu'on puisse jouer dans un endroit protégé pendant les périodes de récréation, par exemple. Il y a toutes ces adaptations-là qui doivent être réfléchies, et les acteurs de la prise en charge ne se limitent pas au seul médecin, mais à l'ensemble des intervenants qui participent à la vie de l'enfant et de l'adulte, en l'occurrence.
Merci beaucoup, Morlaï, pour ces questions absolument essentielles. Et on a au téléphone le docteur Nina Corsaga, qui est dermatovénérologue au CHU Yelgado Ouédraogo de Ouagadougou, au Burkina Faso. Docteur Nina Corsaga, bonjour.
Oui, bonjour.
D'abord, cette maladie est-elle fréquente au Burkina Faso ?
Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier de me donner l'occasion de
Alors, docteur Corsaga, la ligne, je me permets de vous interrompre, docteur Corsaga, parce que la ligne téléphonique n'est pas très bonne là avec le Burkina Faso. Donc, si vous pourriez parler très près du téléphone et bien fort pour qu'on vous entende.
D'accord. Donc, il faut dire qu'au Burkina Faso, la prévalence, aucune étude de prévalence n'a encore été faite. Et l'association burkinabé pour l'intégration des personnes albinos a dénombré 540 albinos sur l'étendue du territoire et une population globale d'environ 17 millions d'habitants.
Quel est le regard de la société sur cette maladie, sur l'albinisme ?
Il faut dire que traditionnellement, les personnes n'arrivent pas à comprendre que deux parents noirs, en fait, donnent naissance à un enfant albinos, donc à un enfant blanc, ou bien qu'il y a toutes sortes d'explications assez fantaisistes qu'on essaye de trouver. Par exemple, c'est la mère qui aurait dormi à la belle étoile, ou qui aurait été infidèle, ou alors un être malfaisant qui serait revenu, etc. Mais de façon générale, au-delà de ces préjugés, on peut dire que les albinos sont assez bien acceptés dans la société burkinabé. Ils ne sont pas victimes traquées comme dans d'autres pays à des fins de sacrifice.
C'est ça, c'est pas la même situation qu'en Afrique de l'Est et par exemple en Tanzanie, où ils sont vraiment victimes non seulement de discrimination, mais de meurtres et d'assassinats.
Exactement. Nous avons mené une étude sur 4 mois et parmi les 56 albinos que nous avons recensés, 90% affirmaient qu'ils étaient assez bien acceptés, qu'ils n'avaient pas été victimes d'agressions physiques, 60% n'avaient pas été victimes d'agressions verbales. Donc cette étude confirme à peu près d'assez bonne acceptation de ces albinos dans notre pays.
Et ces albinos viennent-ils facilement consulter dans votre service? Et après ça, comment se passe la prise en charge?
Il faut dire qu'ils ne viennent pas spontanément en consultation de routine. C'est ce que nous conseillons régulièrement lors des campagnes de sensibilisation organisées par la Société Burkinabé de dermatologie et l'Association Burkinabé pour l'intégration des personnes albinos. Nous ne voyons malheureusement qu'au stade du cancer, il y a des stades déjà très, très avancés où la prise en charge est assez difficile. au dispensaire de l'ordre de Malte qui donne des soins gratuitement, des soins dermatologiques et ophtalmologiques gratuits aux albinos, nous avions trouvé une astuce, c'était de leur offrir des crèmes solaires qu'ils recevaient lorsqu'ils venaient à cette consultation de routine. Et là, nous pouvions examiner à peu près une dizaine d'albinos par semaine. Mais depuis que les crèmes, une fois qu'il n'y a plus de crèmes, ils ne venaient plus absolument aux consultations. Donc, il faut dire que ce manque de consultations systématiques des services de santé peut être dû soit à l'ignorance, soit à une barrière économique, ou alors aussi à la peur de la stigmatisation.
C'est ça. Puis j'imagine pas non plus beaucoup de dermatologues pour prendre en charge cette maladie. Professeur Smaïl Adjrabia. Oui, c'est ça. Vous êtes combien de dermatologues au Burkina Faso?
Nous avons à peu près une vingtaine de dermatologues pour les 17 millions d'habitants.
Oui, c'est ça. Donc c'est évidemment insuffisant. Restez en ligne avec nous, docteur Korsaga. Mais juste, professeur Smaïl Adjrabia, quels sont les conseils que vous donnez à vos patients albinos, justement, en termes de fréquence de consultation pour mettre en place tout un système de prévention?
Initialement, nous recevons les patients et leurs familles, puisqu'on les reçoit petits, donc il faut former l'entourage tous les 3 mois environ, surtout pour discuter de cette photoprotection. Et il faut expliquer que on doit se photoprotéger du lever au coucher du soleil tous les jours de toute la vie. Et c'est difficile à expliquer parce que la photoprotection correspond dans notre inconscient collectif à la crème solaire sur la plage. Et donc dire que même à Paris, par exemple, quand le soleil se lève, il y a suffisamment d'UV pour altérer la peau, c'est difficile à transmettre et parce qu'il ne fait pas chaud et qu'on met de la crème solaire généralement quand il fait chaud. Donc c'est pour ça qu'il y a cette fréquence de consultation. Et l'importance aussi de donner de la vitamine D, en particulier chez le petit enfant, fait que initialement c'est cette fréquence-là. Puis ensuite, on va espacer à partir du moment où les choses sont.
Mais sur des patients du coup adultes, vous les voyez quoi, une fois par an, deux fois par an, c'est quoi?
Une à deux fois par an, c'est la fréquence.
Et pour faire quoi? Pour surveiller justement.
Pour examiner la peau et traiter le plus précocement les éventuelles kératoses, comme il a été dit précédemment, qui sont le lit des cancers.
Quand les enfants ont été bien protégés, c'est-à-dire à la fois, on a compris, des habits, des chemises à manches longues, des pantalons et bien couverts, quand ils sortent avec de la crème, est-ce qu'on arrive à éviter ces cancers de la peau?
On n'a pas de résultats à long terme, mais ce que l'on sait, et on le sait aussi grâce à d'autres maladies où on a cette très grande sensibilité, les enfants de la lune en l'occurrence, ou le xéroderme pigmentosum, on a cette très grande sensibilité aux UV. On voit que l'apparition de la première lésion est extrêmement retardée par rapport à une population qui n'a pas été photoprotégée. Donc clairement, cette photoprotection est importante et donne des résultats.
On va voir justement comment est prise en charge cette lésion. Docteur Nina Korsaga, vous l'avez dit, vos patients viennent vous voir très tardivement, souvent au stade de cancer. Quels sont les moyens de traitement dont vous disposez?
Les moyens de traitement dont nous disposons, c'est essentiellement la prise en charge précoce des lésions précancéreuses. Ce sont les kératosactinites dont il a été question tout à l'heure. Donc, lors des journées de sensibilisation, nous leur expliquons qu'ils doivent faire prendre en charge impérativement toute lésion un peu rouge à surface rugueuse, qui sont justement ces kératosactinites et qui sont les lésions précancéreuses.
Et une fois que le cancer est déclaré, quels sont les moyens dont vous disposez, docteur Korsaga, au Burkina Faso?
C'est la chirurgie. C'est la chirurgie, mais là, nous sommes aussi souvent confrontés à un problème financier parce que c'est des patients souvent assez démunis. Et le stade auquel ils arrivent, c'est que les lésions sont tellement de dimensions importantes que cette chirurgie est souvent délabrante et que elle est souvent difficile d'ailleurs à appliquer. Et très souvent, c'est des patients que nous n'arrivons pas à soulager.
Merci beaucoup, docteur Nina Korsaka. Je rappelle que vous êtes dermato-vénérologue au CHU Yelgado Ouédraogo de Ouagadougou, Burkina Faso.
Priorité santé sur RFI.
Et nous parlons de l'albinisme. C'est toujours un plaisir d'entendre Salif Keïta qui, bien sûr, en tant qu'albino, s'est beaucoup mobilisé pour sensibiliser sur ces questions, faire accepter par la population cette maladie. Professeur Smaïl Hadjrabia, j'aimerais bien revenir sur la prise en charge des patients au moment où, finalement, jusqu'au stade où le cancer s'est déclaré. Le docteur Korsaka nous a parlé de chirurgie. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Qu'est-ce que vous faites d'autre?
On a l'arsenal thérapeutique qui existe dans la prise en charge des cancers, essentiellement la chirurgie, comme elle l'a dit. On peut, et ou bien les chimiothérapies dans les formes agressives.
Voilà. Et vous avez aussi des patients qui viennent tardivement?
En France, non.
Donc, vous évitez d'arriver au stade de cancer de la peau,
oui.
En gros, c'est
oui,
ça?
Oui, globalement, les premières lésions apparaissent vers l'âge de... Enfin, dans les populations qu'on a vues, vers 30-35 ans, pas avant.
Et au niveau ophtalmologique, docteur Christophe Orso, vous l'avez dit à un moment, c'est aussi important de consulter tôt pour éviter à la fois une dégradation de la vue, mais surtout pouvoir corriger au maximum.
Tout à fait. Alors, on a la chance par rapport à la protection cutanée que les gens sont beaucoup mieux en mettant les lunettes. Ils sont très gênés par la lumière, donc ils ont le réflexe de mettre des lunettes solaires. Même s'il n'y a pas beaucoup de soleil, ils ont constaté que dès qu'ils les mettent, ils sont mieux. Donc on a cet avantage. Il faut que les lunettes soient adaptées à la puissance de l'œil de l'enfant. C'est pour ça qu'on les revoit là aussi tous les 6 mois, parce que cette variation, cette puissance de l'œil varie avec l'âge, et ça permet de suivre comment la vision se développe, éventuellement d'aider à l'améliorer, à faire que l'acuité soit la meilleure possible. Et dans certains cas, il y a des formes d'albinisme où les gens ont une acuité qui peut être de 5 dixièmes, ce qui leur permet de suivre une scolarité tout à fait normale.
Et de vivre normalement avec une correction.
À peu près normalement, avec une correction optique. Mais il y a quand même des formes où l'acuité est assez basse, comme on a eu tout à l'heure un témoignage. Mais c'est souvent aussi maintenant des gens qui n'ont pas bien été pris en charge, où on n'a pas pu donner la bonne correction optique.
Suffisamment tôt. Et je ne l'ai pas précisé en vous présentant, mais cette unité fonctionnelle d'ophtalmologie à l'hôpital européen Georges Pompidou, il y a aussi un centre de maladies rares, de maladies justement ophtalmologiques, et ces albinos doivent être pris en charge par des ophtalmos qui connaissent cette question-là, spécialisés.
Bien sûr, des gens qui ont l'habitude de le prendre en charge, mais tous les ophtalmologistes ont des formations sur ce style de pathologie, et dans la mesure où il n'y a pas de traitement très spécifique, c'est le développement de la vision de l'enfant chez un enfant malvoyant.
Le professeur Smaïl Hadjrabia, on y reviendra parce que vous êtes aussi centre de référence des maladies génétiques à expression cutanée. On fera un point avant la fin de cette émission sur justement les recherches et où on en est. Mais j'aimerais bien qu'on prenne en ligne Mamadou Sissoko, qui est vice-président d'une association d'albinos au Mali. Mamadou Sissoko, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Mamadou.
Bonjour, moi je suis Mamadou Sissoko, je suis une personne vivant avec l'albinisme. L'intervention que je voulais faire, surtout dans nos pays saliens, c'est beaucoup basé sur l'adaptation. Il faudrait que les associations soient appuyées par les ministères de santé pour mettre un système d'adaptation. parce que c'est la suite des manques de système d'adaptation qui amène les cancers et même la cécité.
Qu'est-ce que vous dites par système d'adaptation, c'est-à-dire de prévention?
Oui, je peux dire des préventions, si vous voulez, des préventions, parce qu'il faut des crèmes solaires disponibles. Étant donné que nous sommes dans des pays qui sont à majeure pauvre et les sujets ni les parents sont d'autres dépenses imprévues qui sont la prise en charge d'un enfant vivant avec l'albinisme. Il faut que les États
prennent
en charge. Voilà. Il faut que les États s'investissent beaucoup pour vraiment aider ces organisations. Parce que ça fait partie du vécu journalier. Tu as besoin des crèmes pour sortir, tu as besoin. Sans cette protection-là, sinon, si vous voulez, sans prévention, la personne vivant avec l'albinisme n'aura pas accès aux services sociaux de base. C'est-à-dire l'éducation, la formation. Donc,
c'est absolument indispensable. Merci de nous alerter là-dessus. Professeur Smaïl Adjarabia, comment on fait en France? Est-ce que les crèmes solaires pour les albinos sont prises en charge par la Sécu?
Les crèmes solaires ne sont pas prises en charge directement pour le diagnostic d'albinisme. Elles sont prises en charge dans le cadre de la prévention des cancers cutanés. Et donc, elles peuvent être prises en charge dans une certaine mesure par la sécurité sociale.
Mais on comprend bien que ça aussi, c'est un problème. J'imagine que vos patients doivent le dire régulièrement, parce que ça coûte cher au bout d'un moment quand tu fais en consommer beaucoup.
Alors, c'est remboursé par la sécurité sociale d'une manière générale avec une quantité mensuelle. C'est compliqué à se faire rembourser parce que ce n'est pas directement remboursé auprès de la pharmacie le plus souvent, mais il faut avancer le financement. Et en effet, nous sommes confrontés à des situations où nous essayons de fournir dans la mesure du possible, quand nous en avons, des crèmes à certains patients en France aussi.
Merci beaucoup à Mamadou de nous avoir alerté là-dessus. On a Aimé qui nous appelle d'Abéché au Tchad. Aimé, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute, Aimé.
J'ai une question concernant la partie d'Albinisme.
Oui, allez-y, on vous écoute, Aimé, la ligne n'est pas très bonne, mais au moins allez-y.
Oui, comme l'albinisme est une maladie qui se transmet à cancer des tissus, j'aimerais savoir, ne peut-on pas faire disparaître la maladie en évitant que les hétérozygotes, ceux qui...
Alors, Aimé, je vais me permettre de répéter votre question parce que la ligne téléphonique est vraiment pas très bonne. Puisque l'albinisme est une maladie héréditaire, est-ce qu'on pourrait pas faire un dépistage avant le mariage pour éviter que les deux époux ne portent le gène récessif et ne transmettent la maladie à leurs enfants? J'imagine que vous travaillez sur ces questions génétiques, justement, professeur Smaïl Adjarabia. Qu'est-ce qui est fait en France?
En France, alors, nous abordons un problème complexe, puisque... comme on l'a dit, il y a plusieurs albinismes, y compris plusieurs albinismes oculocutanés, donc plusieurs gènes impliqués. Donc la première étape serait d'identifier dans une famille donnée ou dans une population donnée, lorsqu'on parle de dépistage prénuptial, dans la question qui est évoquée, d'imaginer quel est le gène le plus fréquemment impliqué dans la population que nous considérons, quel que soit le pays. C'est la première contrainte. Et la deuxième contrainte, c'est existe-t-il une mutation ou des mutations, c'est-à-dire des anomalies à l'intérieur de ces usines. Maintenant qu'on est à l'intérieur de l'usine, il faut imaginer des ateliers. Et on ne sait pas, pour une famille donnée, si c'est l'atelier numéro 1 qui ne fait pas son travail ou l'atelier numéro 10. Est-ce que dans la population que nous considérons, dans le groupe, que nous considérons, c'est plutôt l'atelier numéro 1 ou plutôt l'atelier numéro 10, parce que on peut pas dépister l'ensemble des mutations comme on peut le faire pour d'autres pathologies.
Par exemple, la drépanocytose.
Comme la drépanocytose, où on sait que c'est une mutation unique dans une population donnée. Ici, on est dans des situations beaucoup plus complexes de plusieurs gènes, plusieurs mutations au sein d'une même population, et troisièmement, un élément qui est la fréquence des personnes qui sont porteuses de l'anomalie dans la population.
Donc
que nous considérons.
Donc c'est encore trop compliqué.
Il faut répondre. Ce n'est pas compliqué techniquement, c'est qu'il faut répondre à ces trois questions pour savoir s'il y a effectivement un intérêt dans la population à dépister les personnes hétérozygotes.
Anne nous demandait, on l'avait en ligne et on l'a perdu, est-ce que quand on est albinos, les enfants le seront également ?
Alors, dans les formes les plus fréquentes, la réponse est non. Le plus souvent non, puisque ça va dépendre là encore de la fréquence des personnes hétérozygotes dans la population. Toujours le même type de question. Est-ce que j'ai, moi qui suis albinos, le risque de rencontrer quelqu'un qui est porteur d'une anomalie dans le même gène qui est responsable de l'albinisme chez moi.
Donc c'est pas automatique.
C'est donc ça c'est pas automatique. C'est loin d'être automatique.
C'est loin d'être automatique. On a tout à fait. Vous avez raison.
Sauf des mariages consanguins, bien entendu. Mmh.
Sauf, alors c'est pour ça que, en revanche, la consultation, à partir du moment où on se pose cette question, la consultation auprès d'un généticien est importante. C'est-à-dire ce qu'on appelle la consultation de conseil génétique. Je suis concerné par une maladie génétique. Un des membres de ma famille est concerné par cette maladie génétique. Est-ce que j'ai le risque d'avoir un enfant atteint de cette maladie ? On peut répondre à cette question grâce à la consultation et rassurer bien avant, le plus souvent, de faire des tests.
J'avais encore plein de questions à vous poser. Est-ce qu'on pourra un jour guérir cette maladie ? On n'y est pas encore. Il nous reste vraiment quelques secondes, professeur Smaïl Hadjirabia.
J'espère qu'on pourra guérir cette maladie, mais beaucoup de prévention, beaucoup d'attention et on y arrivera.
Et on y arrivera. Merci beaucoup et merci aussi, docteur Christophe Orso, et à demain.